Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2010 et c'est l'épisode numéro 40. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous parlons de tout ce qui fait notre vie numérique tous les jours, deux fois par semaine. Deux fois par mois. Un petit peu trop ambitieux sur le coup. C'est l'épisode numéro 40, un épisode important qui devrait se faire avec Yann et Jeff. Je vais vous dire dans deux secondes pourquoi ils ne sont pas là, après avoir accueilli Mathieu, qui me rejoint et me sauve l'émission à la dernière seconde, littéralement. Tu vas bien, Mathieu ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va. Mathieu Blanco, le prince du podcast, selon certains.
Alors, j'ai lu ça.
Oui, on le lit quelque part, dans des endroits bien informés. Merci beaucoup d'être venu vraiment à la dernière seconde, pour le coup. Hein. Je t'ai appelé à la rescousse il y a 5 minutes à peine, le temps de brancher ton micro.
Il n'y a jamais de problème pour un rendez-vous tech. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'habiter dans la même ville et de devoir le faire par Skype.
Puisque tu as déménagé, tu es maintenant à Paris.
À Paris, voilà.
Ça ne te change pas trop ?
Écoute, niveau appartement, on va dire que c'est devenu du tout en un. C'est-à-dire que là, à gauche, j'ai ma cuisine, à droite, j'ai ma salle de bain, devant moi, j'ai mes toilettes. Tout ça dans le même espace. Et...
Bienvenue à Paris.
Bienvenue à Paris, j'ai envie de dire ça.
Bon, écoute, on ira se prendre un pot un petit peu plus tard dans la semaine et tu me raconteras tes déboires parisiens.
Voilà.
ça va être sympa d'ailleurs, parce qu'entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu et moi, même si nous avons participé à énormément d'émissions ensemble, on ne s'est jamais rencontré.
C'est vrai.
Ouais, on s'est jamais vu. C'est la magie du podcast. On plaisante, mais j'ai quand même une petite inquiétude dans cette émission. Jeff, on sait, il est en vacances, il est un petit peu occupé. Il nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Il a dit qu'il essaierait d'arriver plus tard. Mais Yann, j'ai pas de nouvelles depuis une semaine, 10 jours.
Ah, quand même.
Et j'ai regardé son compte Twitter. J'ai regardé son compte Twitter, il a rien tweeté depuis une dizaine de jours. Je me suis dit, bon, il est un peu occupé, mais là, il n'est pas non plus présent, il n'a pas prévenu. D'habitude, il prévient toujours. Je plaisante à moitié, je m'inquiète un tout petit peu. Donc, si quelqu'un sait ce qui se passe avec Yann, où il est, enfin, qu'on nous dise, parce que je m'inquiète un petit poil, quoi. Donc voilà, bon, message d'utilité publique est passé.
Voilà. Autre si message. Vous savez ce qui se passe.
Exactement. Autre message.
J'ai pas très bien compris ta demande. Est-ce que tu veux que je le remplace ou que je l'imite dans la...
Mais écoute, c'est l'épisode 40, donc c'est un petit peu un événement, tu vois, toutes les dizaines. Et bon, donc si tu peux l'imiter, ça m'arrangerait pas mal. Ouais.
D'accord. Okay. Je m'entraîne en plus tous les soirs dans ma salle de bain. Enfin, dans ma salle de bain, dans le.
Dans la partie de ta chambre qui fait salle de bain. On a bien compris. Et donc, avant de passer au sujet incroyable que nous avons, comme le Kindle, Facebook, le jailbreak des téléphones portables qui a beaucoup changé légalement cette semaine et d'autres choses, j'ai un petit remerciement à faire, comme d'habitude, pour les gens, ou plutôt la personne qui nous a laissé un pourboire cette fois-ci. Il s'agit de Pascal, qui a eu la gentillesse de passer sur le site et de nous envoyer un petit peu d'argent par PayPal. Donc un grand, grand merci à Pascal qui nous a envoyé un petit pourboire. Eh bien écoutez, si jamais Yann débarque en plein milieu, on va l'ajouter bien sûr. Et puis sinon, on va continuer comme ça tous les deux, comme il y a quelques temps, on l'avait déjà fait.
Dans tous les cas, on espère avoir des nouvelles très vite de Yann. Parce que c'est vrai que moi, je pensais que c'était juste aujourd'hui. C'est vrai que quand j'entends dizaines de jours, pas de tweet, rien. Je sais pas quel temps il fait au Canada en ce moment.
Je pense qu'il fait beau, mais je sais pas. Bon, écoute, c'est juste qu'il a oublié, il est occupé, il a un bébé et voilà,
c'est vrai.
Il est occupé. Eh ben écoute, passons à l'actualité tech.
Yann est resté bloqué sur StarCraft 2.
On nous dit ça effectivement dans la chatroom qu'on salue d'ailleurs. Ils sont là nombreux et pleins d'énergie pour nous suivre en direct. Si vous voulez faire comme eux, vous allez sur lrdv.fr et vous avez tous les liens pour nous suivre directement en live dans la chatroom toutes les deux semaines. Merci à vous. Allez, on se lance dans l'actualité avec une première information double qui est assez intéressante, puisque quelques mois après la sortie de l'iPad, on apprend que contrairement à ce que certains avaient annoncé, le Kindle d'Amazon, donc les appareils qui font livre électronique uniquement et pas tablette, ne sont pas morts, très loin de là. En fait, ils ont un taux de croissance beaucoup plus important même que avant la sortie de l'iPad. Donc, les ventes de l'iPad ne cannibalisent pas du tout le Kindle, voire même ça fait un effet d'entraînement, ce qui est pas...
Ce qui est bien, c'est que à la sortie de l'iPad et tout ça, Amazon a baissé le prix de quasiment 200 ou 300 dollars du prix de son Kindle. D'une, il y a la baisse du prix qui lui a servi. Forcément, quand un produit comme ça passe de 400 à 130 dollars, ça lui donne déjà un envol. Mais en plus, la visibilité de l'usage de la tablette, forcément. Moi, je trouve ça. Enfin, je voulais dire que je trouvais ça génial.
Ah bah, c'est
du
sûr,
fait qu'il
c'est
continue, vraiment super.
Bah, le Kindle originel était un peu plus cher que 130 dollars. Par contre, comme tu le dis, il y a un nouveau Kindle qui a été annoncé qui ne coûte pour le coup plus que ces 140, je crois, 139 dollars.
Ça va de 130 à 179 si tu veux une version 3G ou Wi-Fi. Donc c'est super abordable.
C'est ça, c'est très abordable. Et encore une fois, il ne faut pas croire que le Kindle n'a plus de raison d'être parce qu'il y a d'autres tablettes. Au contraire, c'est ce que tout le monde pensait et tout le monde disait. À partir du moment où il y a des tablettes un peu plus chères qui font un petit peu tout et le Kindle qui est spécialisé pour les livres électroniques, le Kindle a évidemment une raison d'être. Il est plus agréable à lire, il est beaucoup moins cher, il a toutes sortes d'avantages sur lesquels on va parvenir. Et Amazon capitalise sur la chose en renforçant son offre sur les tablettes également, puisque l'application Kindle est disponible sur l'iPad pour le moment, mais sera disponible également sur d'autres tablettes quand elles sortiront. C'est très très sain pour le livre, pour Amazon et pour les consommateurs, puisque la compétition, comment je veux dire, la concurrence, voilà, c'est le mot que je cherchais, la concurrence donne des prix plus bas pour les consommateurs. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles dans cette histoire, quoi.
Et puis en plus, ça a poussé Amazon à un petit peu se remuer niveau technologie, c'est-à-dire que dans ce nouveau Kindle ou dans celui-là ou dans le nouveau système du Kindle, ils ont beaucoup amélioré la technologie de lecture qui utilise bientôt ou dès à présent le fameux WebKit, donc le même moteur de rendu qu'on retrouve dans Safari, dans Google Chrome, dans le prochain système de BlackBerry. Donc d'une, ça a baissé le prix, ça a popularisé l'usage, et en plus, ça les a un peu poussés aux fesses pour se dire bon bah on va un peu booster au niveau de la techno. Donc franchement, il y a que des avantages à tout ça. Il y a pas de comment dire, il y a pas de, comme tu l'as dit, il y a pas de cannibalisation.
Ouais.
Voilà. Bon, c'est que du bon.
Ne vous méprenez pas, ça reste un écran d'encre électronique qui est en noir et blanc.
Et qui est très bon.
Mais qui est bon, bien sûr, pour ce qu'il fait, il est très très bon. Mais bon, voilà, donc bonne nouvelle du côté des livres électroniques. Autre nouvelle intéressante pour Facebook qui a annoncé, j'ai l'impression que, tu sais, il y a quelques temps, peut-être un an, on parlait tout le temps de Google avec ses nouvelles fonctionnalités, ses nouveaux outils. Maintenant, depuis quelques mois, c'est Facebook à toutes les sauces. Hein. On ne peut plus y réchapper. Et toutes les quelques semaines, Facebook annonce aussi des nouveautés. Les dernières, il y en a deux qui sont à mon sens, absolument majeures. La première, c'est le fameux bouton « like », le bouton qui vous permet de dire que vous aimez n'importe quoi sur Internet. Pourquoi tu te marres ?
Non, je suis en train de découvrir la news. Et puis, c'est vrai que ce bouton « j'aime », je l'adore.
D'accord.
Je l'adore parce qu'il permet de dire des choses que tu peux pas dire comme ça. Il y a quelqu'un qui poste un, je sais pas, j'ai souvent des gens ou des contacts qui postent des messages mais pourris ou neuneux. Et puis c'est vrai que tu peux pas marquer, mais arrête, ou t'es con ou machin. Et ben tu cliques sur, juste sur j'aime. Donc la personne est en train de déballer sa vie, te dire que machin elle va pas bien, truc et ci et ça. Et au lieu de répondre à un truc, tu cliques sur j'aime ça. Ça ne dit rien et ça dit tout.
C'est pas faux, c'est pas faux. Mais enfin là on parle du bouton like sur les pages web, hein, bien sûr. Donc comme vous le savez, n'importe qui peut mettre un bouton like sur sa page web. Vous cliquez dessus et ça donne à vos personnes qui sont amies sur Facebook l'information que vous aimez cet article, que vous l'avez apprécié, que vous le recommandez, etc. Tout en un bouton. Et jusqu'à maintenant, l'interaction, c'était juste que vous appuyez sur le bouton like et ça s'arrêtait là. Eh ben, à partir de dans pas longtemps, bientôt, il y a une énorme, mais vraiment énorme évolution.
Un truc fantastique, hein. Ils ont embauché des gars de la NASA pour le faire.
Non, mais sincèrement, ça a des conséquences monumentales sur la dynamique de Facebook. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont autoriser les éditeurs à envoyer des messages par ce bouton like. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un bouton like sur la page Nike, par exemple. En plus, ça rime, c'est parfait. Vous cliquez, il y a 200 000 personnes qui cliquent sur le bouton like de Nike. Eh bien, ils vont autoriser certaines personnes, sans doute contre paiement, vous savez, comme de la pub, à envoyer un message par l'intermédiaire du bouton like. C'est-à-dire que si vous avez aimé une page, vous allez pouvoir recevoir sur votre profil un message d'un éditeur qui l'enverra aux gens qui ont aimé ce bouton like. C'est une sorte de publicité inversée. Ça a des conséquences peut-être un petit peu inquiétantes sur la spamisation de la chose, mais en même temps, c'est vous qui avez dit que vous aimiez.
Donc voilà, t'as dit que t'aimes, donc maintenant tu vas en avoir.
Exactement, exactement. Mais c'est hyper important parce que imagine que Reebok voit ça et ils se disent bon bah on va ou Puma ou n'importe qui, on va envoyer des messages aux gens qui aiment les qui ont déclaré leur intérêt pour Nike. C'est un outil de monétisation et de publicité qui est énorme. Ça rend cette conversation globale, puisque maintenant les boutons like sont partout sur le web, ça rend cette conversation, enfin, ça transforme cette interaction en conversation véritablement. C'est hyper, hyper important. C'est vraiment un aspect de la stratégie de Facebook majeur. Et bon, on ne sait pas exactement comment ils vont l'implémenter parce qu'il n'est pas sûr qu'ils envoient des messages à tous ceux qui ont appuyé sur le bouton like. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, cette idée est hyper importante. Chocomogo dans la chatroom dit si on aime Patrick Béja, on aura des pubs Patrick. Peut-être que non, bah, je ne sais pas, mais peut-être que vous aurez des pubs Mathieu, par exemple.
Ça pourrait arriver. Hein. Faites attention à ce que vous likez.
Exactement. Une autre information sur Facebook, c'est ce système de ah tiens, il y a JC Frog qui vient de nous rejoindre dans la chatroom. Vous connaissez certainement JC Frog, un grand ami de Corben qui nous fait des chansons régulièrement. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Bref, salut JC. Qu'est-ce que je disais moi ? Oui, autre truc intéressant de chez Facebook, c'est cette histoire de Facebook Questions. T'en as entendu parler de ça ?
Tout le monde en a parlé, tout le monde en m'a dit tout ça, mais comme j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc, je suis en bout de serveur, tu vois, genre le dernier serveur qu'on met à jour, le truc qu'on oublie au bout de deux mois, c'est hey, celui-là, celui-là qui a pas de numéro, là, on l'a mis à jour. Donc en fait, je n'ai toujours pas de Facebook question, je ne sais pas à quoi ça ressemble.
D'accord. Bah, en fait, moi, je l'ai pas non plus.
Est-ce que c'est comme un FormSpring ou
Non, pas exactement. En fait, l'idée, c'est que moi, je l'ai pas encore.
Si tu poses une question, l'autre peut t'envoyer de la pub, c'est un truc comme ça aussi.
Non, pas tout à fait.
Seulement s'il a payé, non.
Mais Bon, pour expliquer, c'est un système qu'ils sont en train d'implémenter, qui est pas encore mis en place pour tout le monde, évidemment. Mais il est en train d'être implémenté. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez en gros poser une question. Il y a, au lieu de mettre à jour votre statut, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez mettre un lien, mettre une image, mettre autre chose que simplement votre mise à jour de statut. Et ben là, vous pourrez aussi choisir, je pose une question. Et quand vous faites ça, évidemment, vos amis vont répondre, c'est normal. Mais
ou cliquez sur j'aime ça, ça dépend de vos
par
amis.
Par exemple. mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand vous taguez cette question en tant que question, Facebook va autoriser la recherche sur ces questions.
Ouais, est-ce que ça veut dire comment ça s'appelle Yahoo Ah mince.
Answers, exactement.
Voilà, Yahoo Answers, réponse. Sauf que c'est mixé avec réseaux sociaux et tu peux taguer les gens et tout ça.
Ben, ce que ça veut dire en fait, c'est que ils mettent en place un moyen avec leur infrastructure de leur social graph, leur graph social ouais. Qu'ils ont déjà. Ils mettent en place un système qui est intégré avec ce social graph de questions à votre entourage. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher sur le web, par exemple, vous dites j'aimerais bien savoir s'il y a, j'allais dire une pizzeria, mais prenons quelque chose d'encore plus pratique, un garage auquel je peux faire confiance dans l'ouest de Paris. Bah, vous connaissez pas forcément tous les garages, vous savez pas où vous pouvez aller. Vous pouvez demander à votre social graph, peut-être qu'ils peuvent dire les gens qui sont vos amis et les amis de vos amis auront accès à cette question. Et vous pourrez avoir des réponses qui seront testées ou en tout cas recommandées par des gens auxquels vous avez plus ou moins confiance.
Ça,
lesquels vous avez
ça
plus
me
ou
fait
moins
beaucoup penser à Thumbs Up. Un service qui est un produit dont je connais les deux personnes qui sont en train de le faire, qui est en cours de développement, enfin en phase de bêta privée. D'ailleurs, ça les fera plaisir. Si vous le suivez sur Twitter, c'est Savat. Mmh. C'est un truc dans le même style où effectivement, c'est de la recommandation sociale dans un cercle d'amis restreint.
Ouais, bah,
ça
exactement.
Se passe exactement de la même manière.
Et tu sais, le truc, c'est que avec ce système de questions-réponses, évidemment, c'est hyper important, mais ce que je veux dire, c'est que ces systèmes sont l'avenir du web. C'est-à-dire que tout ce qui est basé sur le web social, sur le graphe social, sont amenés à prendre énormément d'importance. Mais là, la chose extrêmement intelligente que fait Facebook, c'est qu'ils ont déjà le graphe social. Donc, ouais. Ils colle dessus un truc de questions et de réponses et en plus, donc qui va fonctionner immédiatement parce que vous avez déjà plein d'amis et en plus, ils vont utiliser ça pour faire une sorte de base de données de questions et de réponses que vous pourrez très certainement dans lesquelles vous pourrez très certainement chercher et vous saurez que ces gens sont pas des gens anonymes qui sortent de nulle part dont ouais. Vous n'avez jamais entendu parler.
C'est cette fameuse crédibilité de la recommandation. C'est-à-dire, tu sais que s'il y a, par exemple, je sais pas, c'est comme un film ou c'est comme une marque, c'est comme n'importe quoi. Si maintenant tu vois une pub à la télé qui te dit que le machin il a plus blanc que blanc, bah tu sais, c'est dans ton inconscient, bah c'est la télé, c'est clair qu'ils vont pas dire que c'est de la merde. Par contre, si t'as 2, 3, 4 personnes dans ton entourage proche à qui tu fais confiance, qui te recommandent telle ou telle chose en te redisant à peu près la même chose. Ça aura mais une crédibilité folle par rapport à la télé et sauf que ça aura rien coûté et donc ouais c'est
exactement il faut
savoir que que les outils analytiques de Google sont déjà absolument fabuleux quand tu es éditeur de contenu et que tu regardes tes statistiques ou tout ce qui est analytique, c'est-à-dire par exemple rien que sur une page où tu deviens fan ou un truc, je suis fan de ça ou je rejoins tel groupe, rien qu'en rejoignant un groupe comme ça, par exemple, là je peux te dire avec précision que les gens qui me suivent par exemple sur Facebook, il y a 90% d'hommes, 10% de femmes, il y a 24% d'hommes de 13 à 17 ans, il y a 34%. Donc en fait ça. Du fait que c'est pas comme Google qui doit récupérer des infos ou imaginer ce qui vous êtes. On a déjà dit à Facebook qui on est, ce qui fait que la moindre action qu'on fait sur Facebook, elle est quantifiée. Je peux savoir avec précision quel fan est devenu fan de moi, mais m'a retiré de son flux d'informations dans la homepage parce qu'il voulait pas être pollué. Suite à quelle action? Suite à quel truc? Si maintenant je publie une vidéo, combien de fois elle a été vue? En fait, tu peux tout savoir. Le moindre clic que vous faites sur Facebook est enregistré, est analysé et quantifié dans les outils d'analyse. Et c'est vraiment quand tu passes derrière, quand tu passes d'utilisateur ça prend une dimension, mais
C'est là-dedans que réside toute la force et la valeur de Facebook, c'est que
voilà, et c'est ça ce que ne se rendent pas compte la plupart des gens qui disent oui, il faut quitter Facebook, c'est machin, c'est si, c'est ça. En fait, quand tu passes de ce côté-là et que tu vois tous ces outils, ces graphes, ces trucs avec,
donc tu encourages les gens à rester.
J'encourage pas les gens à rester, mais je les encourage à prendre conscience ou à essayer une fois de créer une page fan, parce que c'est gratuit, ça prend 2 minutes, et de regarder tous les outils disponibles derrière en exportation de données, en quantification. Parce que c'est ça le pire, c'est que quand t'as un compte Google Analytics et que tu regardes tes stats, c'est variable, c'est pas précis, parce qu'ils ne peuvent pas savoir... J'ai quelqu'un. Alors que là, tout le monde a donné ses infos à Facebook au moins une fois. On est un homme ou une femme, il sait à peu près notre tranche d'âge. Et après, tous les clics qu'on fait sont enregistrés, sont analysés. Donc en fait, ça te donne, tu connais les gens, tu connais pas leur prénom ou ça. Tu connais tout leur historique et c'est en même temps fabuleux, mais en même temps, ça fait peur.
Donc, deux commentaires. Dark Rem nous dit il faudrait réécrire 1984 et le renommer 2014.
C'est clair.
Il y a un petit peu de ça. Et Petit Steak dit aussi tu as 10% de femmes dans tes followers, donc tu as 10% de menteurs, Mathieu. Merci, Petit Steak. Mais non, il y a plein de filles.
J'ai envie de dire non, parce qu'après, il faut le vérifier, il faut rencontrer en vie, il faut vérifier ces informations.
Non, mais il y a plein de filles, faut pas croire. Il y a plein de filles no watcheuses. Je le confirme et je l'affirme. Bon, on passe.
On dira pas plus, hein. Ceux qui voudront qu'on voit là.
Non, mais pas du tout. Bon, bref.
Qu'est-ce que tu as voulu comprendre?
Parlons plutôt d'Apple, tiens. Toi qui connais un petit peu la chose, peut-être que tu peux nous parler de ces histoires de jailbreak. Non, d'accord, je vais y aller alors.
J'ai vu que le jailbreak était disponible pour l'iPhone 4 et qu'il n'y avait même plus besoin d'installer une application, que ça pouvait directement se faire par Safari, en fait.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle jailbreakme.com ou .net. Je sais plus.
C'est jailbreak.me.
Non.
Ça
serait pas mal, ça. Attends, je vais te retrouver l'adresse. Mais en tout cas, il suffit depuis son iPhone d'aller sur ce site et immédiatement, on peut l'avoir jailbreaké super facilement. C'est jailbreakme.com. Et ça fonctionne hyper simplement. Vous n'avez même pas besoin de télécharger un logiciel sur votre ordinateur ni quoi que ce soit.
C'est quand même génial parce que... Bon, c'est du troll, hein, mais... les rares failles que t'as dans des produits Apple, ça sert à faire des trucs bien. Ça sert pas à faire des virus, tu vois.
Oui, bah attends qu'ils commencent à les utiliser pour faire des virus, tu vas voir comment ils vont être contents.
J'attends ça avec une impatience folle, tu peux pas imaginer.
Et autre nouvelle, c'est que le jailbreak est désormais considéré comme légal aux États-Unis. C'est-à-dire que le jailbreak naviguait dans des eaux troubles depuis le début, parce qu'on n'était pas certain que ça soit véritablement autorisé.
Parce qu'en fait, si tu veux, ça, la loi disait rien et Apple avait mis ça dans ses conditions d'utilisation, les mêmes où il y a marqué que tu n'as pas le droit de fabriquer de bombes nucléaires avec ton iPhone.
Donc on se disait, a priori, ça doit être sérieux. Mais en fait,
la loi l'a précisé. Le truc, c'est qu'il y avait un flou artistique dans la loi.
Exactement.
Qui était utilisé par les marques, qui mettaient ce qu'elles voulaient dans leur conditions générales d'utilisation. Donc elles pouvaient mettre n'importe quoi, sauf que là, effectivement, la loi américaine dit clairement que l'usage d'un téléphone doit rester ouvert, machin. Donc que si...
Bah en fait, excuse-moi, je t'interromps, parce que la base de cette règle était le DMCA, qui est le Digital Millennium Copyright Act. Entre parenthèses, on en a parlé dans Upload qu'on vient d'enregistrer, qui sera disponible d'ici 2 jours, l'émission qui charge votre mobile. Donc j'ai l'impression de me répéter un peu. Mais on donc
super
la tagline, ouais. Donc, ce que le DMCA protège les copyrights. Et ça recouvrait, par exemple, le logiciel de l'iPhone qui était considéré comme une propriété intellectuelle qui était protégée. Et ce DMCA est passé en revue tous les 3 ans. Et lors du passage en revue de la semaine dernière, les juristes ont considéré que le téléphone, une fois que vous l'achetiez, eh ben, il était à vous et vous pouviez en faire ce que vous voulez parce que c'était votre propriété. Donc, vous pouviez le modifier comme n'importe quelle autre chose que vous achetiez. Donc, c'était pas illégal. Maintenant, ils ont mis les points sur les i de l'iOS. Oula.
Pardon. Ah, j'ai horreur de ça. Ah, mais ça, si je peux piquer une colère contre ces pubs vidéo en flash où ils te les mettent en lecture par défaut, mais... Oh.
Tu devrais regarder ça avec ton iPhone. Au moins, t'aurais pas de flash, ça te poserait pas de problème.
Je suis désolé de cette petite. Mais c'est vrai que c'est un truc que je vous commence à voir depuis une semaine partout. Je voyais déjà des pubs vidéo, c'était déjà chiant parce que ça faisait ramer c'est du flash. Et là, maintenant, ils te les mettent en lecture par défaut avec le son à fond. Ouais. Ça arrive trop souvent. Et on y passe.
Et donc, le DMCA, il considère que vous pouvez modifier votre logiciel et votre téléphone. Sauf que un petit bémol, ou plutôt 2 petits bémols. D'une part, Apple considère toujours, et c'est normal a priori, que si vous le faites, eh ben, la garantie n'est plus valable. Donc ça reste.
Il suffit de le restaurer pour ceux que ça arrange. Vous cherchez mode DFU sur Google.
Et autre chose, le jailbreak de jailbreakme.com pose encore des tout petits soucis. Il va être raffiné, bien sûr, mais pour le moment, certains disent que le FaceTime et les SMS ne marchent plus trop bien une fois qu'ils l'ont fait. C'est réparable, hein, vous recherchez les choses, vous trouvez les solutions, mais pour le moment, il y a encore des tout petits soucis, comme toujours avec les jailbreaks. C'est un tout petit peu... Parfois ça marche, parfois ça marche un tout petit peu moins bien. Moi, les deux ou trois fois que je l'ai fait, ça marchait super bien, aucun problème. Mais c'est jamais complètement sans risque. Donc, vous êtes prévenus.
De toute façon, si vous avez le moins de soucis, comme dit, vous cherchez mode DFU sur Google et ça vous permet de restaurer votre iPhone sans perdre vos données.
Exactement. Autre chose, c'est un truc dont on a parlé il y a une semaine dans le Encore Upload, décidément. C'est le Earnings Call d'Apple. On va vous la faire courte parce que c'est pas non plus la plus grosse, l'info la plus fraîche de l'histoire. Apple a annoncé ses revenus et ses profits pour le troisième trimestre 2010. Et ils ont annoncé les plus gros profits de leur histoire, non seulement grâce aux iPads évidemment, aux iPhones et aux iPods, comme on peut s'en douter, sachant que l'iPhone 4 n'était sorti que dans les 2 derniers jours de ce trimestre-là, donc il n'a pas contribué pour une énorme partie, enfin une grosse partie, mais pas c'est pas l'ensemble des ventes de l'iPhone 4 qui ont été prises en compte, mais aussi pour les Mac, c'est-à-dire qu'ils ont vendu plus d'ordinateurs qu'ils n'en ont jamais vendu en un trimestre. Donc, pour ceux qui pensent que le Mac souffre des ventes, qu'Apple se concentre plus sur les autres machines, c'est peut-être le cas, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le Mac se vend toujours très très bien et même mieux que jamais. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un trimestre monumental pour Apple.
D'ailleurs, ça me permet de... J'ai rattrapé mon retard de podcast. Oui. Et c'est vrai qu'en écoutant le dernier ou l'avant-dernier Rendez-vous Tech, il y avait le sujet sur les fameux chiffres de Microsoft, où effectivement, je sais plus, je crois que c'était toi, ou je sais plus qui disait que c'était monumental et ça remettait les choses un peu à leur place. Du fait que les chiffres de Microsoft étaient aussi très bons, énormes, et que ça remettait un peu à sa place les autres boîtes comme Google ou comme Apple qui a atteint quasiment la même capitalisation boursière. Mais c'est vrai que quand tu vois des chiffres comme ça, tu te dis, il y a une petite boîte qui représente 7% du marché de l'informatique, qui arrive à te pondre 15 milliards de chiffres d'affaires et 3 milliards de bénéfices.
Oui, enfin, attends, 7% du marché de l'informatique, l'essentiel de leurs revenus et de leurs profits se font quand même dans des marchés autres que l'informatique pur jus. C'est oui, ben, la comme, téléphonie...
bah, comme Microsoft, ils font des consoles de jeux, ils font plein de choses.
C'est pas faux, c'est pas faux.
comme toutes les boîtes, elles font plein de trucs. Mais c'est juste que du marché, voilà, c'est même pas, c'est 7%, c'est une toute petite boîte.
C'est pas une toute petite boîte.
En taille, c'est une petite boîte, dans les pourcentages.
Tu veux dire en nombre d'employés?
En nombre d'employés, c'est ridicule. Tu mets Google à côté ou Microsoft.
Je suis pas certain, hein, parce qu'il faut compter, il faut tout compter dans l'eau. Il y a pas que les gens
même
de.
Si tu comptes tout dans l'eau.
Les Apple Store, tout ça.
Les Apple Store, les Genius, tout le monde, c'est ridicule comparé à Microsoft ou à Google.
Bah écoute, il faudra qu'on ait des. Moi, je prends ça avec un grain de sel.
C'est 33 000 environ, entre 33 et 35 000. Google, si tu comptes juste les gens, je crois qu'ils sont, entre 50 et 60 000. Et Microsoft, c'est plus de 90 000.
D'accord. Bon, écoute, et c'est quand même pas tout petit.
Et c'est juste la comparaison, c'est-à-dire une petite boîte qui arrive à te pondre 15 milliards de chiffre d'affaires et 3 milliards de bénéfices. En face, t'as Microsoft qui pond 16 milliards de chiffre d'affaires et 4 milliards de bénéfices.
Ouais, ils ont effectivement, c'est l'autre chose à noter, c'est que Microsoft est toujours devant, mais pas de beaucoup. Et toujours devant sur les revenus et sur les profits. Entre parenthèses, Apple, c'est 17 milliards et profit 3,35, si je ne m'abuse. Et à noter chez Microsoft, Windows est la seule division qui fait des bénéfices. Tous les autres saignent de l'argent, que ce soit la division jeux vidéo, avec la Xbox, bien sûr, la recherche en ligne, les services en ligne, tout ce qu'ils font perd de l'argent. Sauf Windows qui leur fait gagner, évidemment.
En fait, si je me rappelle bien, c'est à vérifier, je ne suis pas sûr. Les seules divisions qui font de l'argent dans l'ordre, c'est Windows, ensuite tu as Microsoft Office et ensuite tu as la Mac BU. C'est tous les logiciels Apple que fait, c'est tous les logiciels pour Mac que fait. C'est les seules divisions qui arrivent à tirer du bénéfice pour le moment.
Exactement. Et j'avoue que plus ça va, plus je m'inquiète pour Microsoft, quoi. Mais bon, on en a déjà parlé. Ils sont pas encore enterrés, loin de là.
Qui vivra verra.
Exactement. Autre nouvelle ultra importante qui a fait un tremblement de terre dans le monde de l'informatique. Le monde n'est plus le même. C'est la sortie d'un autre accessoire magique.
Mon Dieu, mais
d'Apple.
Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout.
Tu ne devineras jamais. Un accessoire tellement simple et révolutionnaire.
Attends, tu veux que je mette la musique?
Vas-y.
Vas-y. Pose-moi la question.
Il y a une semaine, Apple annonce un accessoire révolutionnaire.
Alors attention,
le monde tremble.
Deux réponses. Est-ce que c'est ton dernier mot?
Magic Trackpad est mon dernier mot, monsieur Blanco.
Waouh! Tu as gagné!
Et oui, le Magic Trackpad dont on avait eu des rumeurs il y a quelques temps et a été annoncé. Alors, le contraire de grande pompe, c'est quoi? Il a été annoncé en petite pompe, j'imagine. Vous savez, ces trackpads assez évolués qui équipent les MacBook Pro, les ordinateurs portables d'Apple.
C'est la plus simple. Ce que vous avez sur en dessous du clavier.
Parle plus fort, Mathieu, on t'entend plus.
Pardon, vous m'entendez?
Oui.
Ce que vous avez en dessous du clavier d'un ordinateur portable, bah vous l'avez en deux fois plus grand.
Voilà.
Avec des piles.
C'est un petit accessoire qui est un trackpad, donc comme sur un ordinateur portable. Sauf que pour si vous avez un Mac, il vous permet de faire tout ce que permet de faire le trackpad des ordinateurs portables, des MacBooks, c'est-à-dire le multitouch, la rotation, etc., etc.
Bah, c'est tout en fait.
Ouais. non mais franchement. Moi, j'aime beaucoup ce trackpad et je trouve que c'est, pour certaines choses, c'est presque mieux qu'une souris. Pour d'autres, évidemment, c'est beaucoup moins bien.
C'est un truc en fait, que je connais depuis quasiment un an avec les tablettes Bamboo de chez Wacom qui font ça au même prix, voire mieux. Donc en fait, je suis un petit peu déçu et je ne recommande même pas le Magic Trackpad. J'ai envie de vous dire que pour le même prix...
Est-ce que le bambou fait ça au doigt?
Le bambou fait tout. Il fait touch, il fait stylet, et le bambou va plus loin, c'est-à-dire qu'il est.
Et il fait multi-touch?
Oui, tu peux tourner, tu peux défiler tes pages, tu fais tu fais exactement la précision. En plus, il est d'une précision. Enfin, je ne peux pas l'imaginer plus précis. Et là où va plus loin le bambou, c'est que ça va de 69€, donc le même prix que la Magic Trackpad, et ça va jusqu'à 199€, où tu as différentes tailles. Le toucher est satiné, il n'est pas métallique, et en plus, il reconnaît jusqu'à 256 points de pression, ce qui fait que si tu achètes pour 10€ ou 20€ la version avec un stylet, tu peux aussi dessiner avec une précision comme un crayon, ou comme, en plus, ils fournissent des logiciels qui sont géniaux avec, qui s'appellent ArtRage. Donc en fait, moi, par exemple, là en face de moi, j'ai une super tablette qui est plus grande que le Magic Trackpad, qui est vraiment la taille d'un A5, qui a le toucher du tissu un peu satiné, qui est d'une précision qui est plus précise que mon trackpad de MacBook Pro, donc c'est dire la précision, sur lequel je fais tous mes mouvements, sur lequel je peux en configurer d'autres. J'ai un stylet en plus sur lequel je peux configurer mes Express Keys. Sur le côté, j'ai des raccourcis. Elle est jolie parce qu'elle est toute métallisée aussi, et elle m'a coûté 99€.
Mais est-ce qu'elle est aussi belle qu'un Magic Trackpad ?
Moi, je la trouve plus jolie.
D'accord.
Je vais vous mettre le lien dans la chatroom.
C'est sans fil ou c'est pas sans fil ?
Il y a une version, il y a tout. Il y a une version sans fil. Moi, j'ai préféré les versions avec fil parce que je n'aime pas les piles.
Écoute, sans fil. D'accord, mais Apple a pensé à toi tout de même puisqu'ils ont aussi sorti leur chargeur de piles qui
j'ai
peut.
Je me suis même un peu posé la question au bout d'un moment.
Écoute, non, mais c'est sûr, on s'en est beaucoup moqué de cette histoire. Mais le chargeur de piles, il est petit, il est élégant, il est fourni avec 6 piles. Évidemment, quand on a une souris, un Magic Trackpad et un clavier sans fil, on utilise beaucoup de piles, donc c'est logique qu'ils en sortent.
Donc là, bon, je vous ai mis le lien dans la. Vous pourrez voir
dans la chatroom. Attends, ouais. je vais y aller et mettre le lien dans les notes de l'émission aussi.
Je vais les mettre. Je la trouve beaucoup plus élégante en plus, voilà. En termes de design. Allez.
Je vais mettre le lien ici, comme ça j'espère que Florent, sans lequel je ne pourrais pas survivre dans le monde du podcast, mettra ça dans les notes de l'émission. On a assez parlé de ces âneries.
Je me suis trompé, c'est format A6. Le format A5, c'est celui-là à plus cher. Bon, il y a toutes les tailles, en fait.
Ils trouveront. Ils trouveront. On va passer à des choses beaucoup plus sérieuses, puisque on va parler de sécurité et de vie privée, en commençant par des documents militaires sur la guerre en Afghanistan qui ont été mis en ligne sur WikiLeaks. Et ça.
Mis en ligne, mais c'est vrai que c'est.
Oui, pardon, vas-y.
Oui, non, je.
D'accord.
Je voulais juste dire que c'est. Il y a plein d'autres trucs qui ont été mis en ligne sur WikiLeaks, mais c'est vrai que c'est ça qui a.
Oui. Donc, bien sûr, il y a énormément de choses qui sont mises en ligne sur WikiLeaks. Vous connaissez bien sûr tous ce site qui a été conçu par des Américains, mais aussi des Iraniens, des Chinois, des activistes qui voulaient donner un espace totalement anonyme pour ceux qui voulaient donner des documents sensibles. Et là, on a un énorme coup puisque un ensemble de documents monumentaux sur la guerre en Afghanistan a été mis en ligne et il y a une quantité d'emails et de documents, bien sûr classés secret défense, qui sont disponibles là-bas. Et ça pose énormément de questions. D'une part, ça donne une mine d'informations à tous les organismes de presse du monde et aux États-Unis bien sûr, mais on va savoir, c'est des rapports hyper précis sur les comptes rendus des opérations, donc comment les opérations ont été menées, combien il y a réellement eu de morts, etc. En même temps, donc ça fournit un outil de transparence, même involontaire, énorme. En même temps, ça pose la question de l'anonymité totale sur le net. Et évidemment, le gouvernement américain, et c'est compréhensible, le gouvernement américain n'est pas super content. Et avant de vous lancer sur vos grands chevaux despotisme facile, comprenez que c'est un truc sérieux. Je ne sais pas si c'est vraiment dangereux ou si c'est répréhensible ou etc. Mais c'est pas un truc qui est simplement vive le monde, les hippies sont gentils, il n'y a pas de secret pour personne, tu vois.
Ah ouais, faut pas voir ça comme je sais pas, les grandes sociétés où les gouvernements sont méchants, on va tout mettre sur WikiLeaks parce que tout le monde est gentil au final. C'est vrai, c'est ça quoi. Faut
pas. Voilà. Donc je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose que ça soit sur WikiLeaks, mais c'est une chose à laquelle il faut
réfléchir. Et parce que Wikileaks, c'est autre chose, Patrick.
Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de super sérieux, et c'est une problématique nouvelle à laquelle on n'a pas forcément encore de réponse aujourd'hui, quoi. Est-ce que l'anonymité absolue est une bonne chose, quelles que soient les situations?
Pour ce que défend Wikileaks, j'ai envie de te dire oui. Comment dire, l'anonymat sur Internet, c'est à double tranchant.
Ouais.
Parce que tu peux très bien dire oui, on a le droit d'être anonyme sur Internet, parce que à la rigueur, tu penses que voilà, la neutralité des réseaux, tout ça, mais c'est vrai que le jour où tu es emmerdé par quelqu'un qui justement utilise cet anonymat complet sur Internet, ça peut tout de suite être plus gênant.
C'est sûr. Bah, disons que... Oui, pardon, vas-y.
Et c'est juste pour Wikileaks. Wikileaks défend effectivement quelque chose, une cause, en disant voilà, tous les documents justement qui sont confidentiels ou qui jusqu'à présent étaient étouffés, eh bien, ils trouvent justement une voie d'expression sur Wikileaks. C'est-à-dire, si un jour, je ne sais pas, tu tombes sur un document top secret qui démontre que tel gouvernement a mené telles opérations et qu'ils ont étouffé l'affaire et tout ça, et que tu ne peux pas te tourner, ça fait un peu penser à des films, que tu ne peux pas te tourner vers un média, sinon tu sais qu'il y a des gens pourris partout, bah, à la rigueur, si tu veux, tu peux te dire, bah, si je les mets sur Wikileaks, c'est comme si je les mettais à disposition sur Internet, et une fois qu'ils sont sur Wikileaks, en l'espace de quelques minutes, je sais que même si après je n'existe plus, eh bien, ils seront dupliqués, ils seront disponibles et tout le monde va les exploiter et la vérité va jaillir. Donc, c'est vrai que pour une cause comme ça, je trouve ça pas mal, et même si ça peut poser certains problèmes de sécurité importants pour certaines organisations ou les militaires qui ont besoin de confidentialité, d'anonymat, ça peut mettre un genre de garde-fou, c'est-à-dire que les militaires ou les organisations comme ça continueront de conserver de l'anonymat ou des dossiers classés top secret, mais ils prendront en compte que sur Internet, il y a des services comme Wikileaks, que s'ils font vraiment des conneries, qu'ils essayent d'étouffer des affaires, bah, il y aura toujours une voie de sortie, une porte dérobée que pourront emprunter ce genre de dossier. Moi, je trouve
c'est
ça
pas
bien.
Faux. Oui, tu as quasiment tout dit. Je dirais juste que dans la chatroom, on nous parle de l'anonymat sur Internet en général en disant qu'il n'existe pas. C'est vrai que c'est difficile d'être anonyme sur Internet. Il y a des choses qui vous rendent presque anonyme. Et ils évoquent notamment 4chan. On va pas passer du temps sur cette histoire de Jesse Slaughter, qui est une petite fille qui était un petit peu provocatrice, une gamine de 11 ans qui s'est fait terroriser par 4chan, qui est le site.
T'en avais pas parlé dans le dernier ou l'avant-dernier?
Je crois pas que j'en avais parlé. Peut-être qu'on l'avait évoqué.
D'un père de famille militaire qui après s'est...
Voilà, ouais, qu'ils ont un peu provoqué les gens. Ils étaient pas très au courant de la manière dont fonctionnait Internet.
Permet aussi de voir quelle est la réponse apportée de 4chan et de se dire, bah voilà, si un jour il y a quelqu'un qui a envie de faire chier quelqu'un d'autre, bah par Internet, il peut lui pourrir la vie, quoi. Surtout si la personne est en plus présente sur Internet.
Exactement, c'est-à-dire que la gamine, bon, on résume rapidement, la gamine a mis des vidéos un petit peu provocantes, pas sexuelles, mais je veux dire, elle faisait la fière. 4chan, donc ce fameux forum de super gros trolls anonymes sur Internet. La prise en grippe, et ils ont transformé sa vie en enfer, quoi. Ils ont, bon, comme on peut le savoir, ils l'ont retrouvé, ils ont trouvé son adresse, son numéro de téléphone, ses parents, etc. Et ils ont prétendu être de la police, ils ont envoyé des pizzas à toutes les heures du jour et de la nuit.
Les $1,000 de pizza, je m'en rappelle.
Mais c'est véritablement inquiétant parce que entité complètement sans visage qu'on ne peut pas contrôler. On en avait parlé l'émission du Captain Web d'ailleurs, mais
là c'était dans l'émission du Captain Web alors.
Ouais. Mais c'est effectivement quelque chose d'inquiétant parce qu'on se dit si demain 4chan décide que Mathieu Blanco est un sale con, et ben tu peux rien faire, quoi. Il y a rien, tu peux rien y faire.
Si je peux l'assumer.
Tu peux assumer que t'es un gros con, c'est vrai.
Enfin bon. Tu vois qui peut le moins peut le plus. C'est-à-dire que quand on a retrouvé des vidéos sur YouTube ou je sais plus quel service d'un mec qui s'amusait à prendre ses chats et à les martyriser, tu vois, et se filmer, bien sûr, et les balancer sur YouTube.
Ça date d'il y a un an déjà, cette histoire.
Ça date d'il y a un an, mais il y a eu d'autres exemples, et c'est vrai que c'est le dernier que j'ai en tête. 4chan a repris ses vidéos, et il y a tellement de gens dans 4chan, et ils l'ont tellement diffusé, qu'ils ont réussi, alors que le mec, il se filmait, mais dans un coin de sa maison, enfin, c'était filmé avec une webcam, c'était, enfin, tu la vois la vidéo, tu vois un mec dans un coin de sa maison, tu peux dire, mais jamais tu peux le retrouver. Et ben, ils ont réussi à retrouver le mec, quoi.
Non seulement ils l'ont retrouvé, mais le type a été, enfin, il maltraitait vraiment son chat, quoi. C'était cruel ce qu'il faisait.
Ouais, c'était cruel. Et mais le mec, il filmait ça avec sa webcam dans un coin de truc. Tu
bien
dis,
sûr.
Mais
et donc ils l'ont retrouvé. Le type a eu la police et la SPA, etc., sur le dos. C'était un gamin de 11 ans, irresponsable, quoi. Mais il y a eu des conséquences, quoi. Donc bon, 4chan peut le meilleur comme le pire, on le sait.
Voilà, c'est ça le truc. Mais au moins ça permet de voir les limites, quoi. Mais ouais, c'est vrai que si t'es dans le moins, ça peut aller loin.
Disons que l'anonymat est une question bien vaste et lourde, et Internet la pose avec éclat, et on n'a pas la réponse ici. Je pense qu'on n'aura pas la réponse avant un bon moment. Tout ça, ça fait partie, comme la vie privée, de choses qu'il faut faire évoluer avec le temps, et ça va continuer à évoluer pendant encore un bon moment. Et comme je parle de vie privée, je vais faire un retour sur Facebook avec un autre grand coup par rapport à la vie privée et à l'anonymat qui a eu lieu ces derniers jours. Un utilisateur, enfin,
la photo de Artegica est géniale.
Ouais. Il y a quelqu'un qui a en fait agrégé toutes les informations publiques disponible sur Facebook qu'il a pu trouver, qui en a fait un énorme fichier et qu'il a mis disponible sur les réseaux de partage en P2P. Et ce fichier contient des informations publiques de 100 millions de personnes, donc un cinquième des utilisateurs de Facebook. Ça inclut des numéros de téléphone, des adresses, des noms, des adresses e-mail, etc., etc. Et lui, il n'a rien fait d'illégal, puisque...
Les gens les ont mis à disposition.
Ben, c'est ça. Tout ça, c'est des infos qui, très certainement, vous qui écoutez cette émission avez un compte Facebook et vous avez un certain nombre d'informations qui sont disponibles légalement pour tout le monde, librement. Et ben, il n'a fait que récupérer toutes ces informations et les mettre disponibles sur il a fait une énorme base de données qui est disponible pour tout le monde. Alors, évidemment, ce que ça a fait beaucoup de bruit parce que c'est un petit peu, aujourd'hui, il y a un fichier de 100 millions de personnes disponibles pour tout le monde partout qui a des informations sur énormément de gens. Donc, ça fait beaucoup de bruit, mais ça a surtout mis l'accent sur le fait que, comme on le répète absolument, quasiment à chaque émission, faites attention à ce que vous mettez à disposition dans votre profil Facebook et sur le net en général.
Et devinez quoi, il y a même des gens qui le vendent et ça s'appelle les bâches blanches.
Oh. Non, mais c'est important, quoi. Il faut
Mais tu vois, on en parle beaucoup de cette question de Facebook et de la vie privée. Moi, je trouve que c'est un super... comment dire ? Je trouve ça bien, d'un côté, parce qu'on en parle tellement, mais que ce soit nous les geeks, comme dans les journaux un peu plus, les médias un peu plus généralistes, que même des gens qui sont pas du tout technophiles en ont désormais conscience ou de plus en plus conscience. De se dire, voilà, je mets ça sur Internet, les gens sont plus dans cette époque, des années 90, ah non, Internet c'est le mal, ils l'utilisent, c'est rentré dans les mœurs, mais par contre maintenant, tu peux même dire, je sais pas, dire à mamie, dire c'est elle qui va dire ah non, alors ça je le mets sur Internet, mais pas ça. Tu vois, c'est devenu, c'est comment dire, ça commence la notion de
ça vie commence privée, à rentrer dans la tête, quoi.
Voilà, ça commence à rentrer dans la tête de tout le monde. Et pour moi, l'expérience Facebook, il n'y a pas encore eu de grands drames ou de choses exceptionnelles, ou par exemple ce gros fichier qui ne récupère que ce qu'on a mis de public. Donc d'un certain côté, c'est un petit mal pour un très grand bien, parce qu'on en a de plus en plus conscience, et puis tout le monde maintenant en parle, puis tout le monde est conscient maintenant, mais vraiment tout le monde, c'est devenu un réflexe. Quand tu mets quelque chose sur Internet, sur Facebook, les gens réfléchissent en disant « Attends, non, ça va être public, je vais le voir ». Enfin, moi, je le vois de plus en plus, que ce soit des adolescents ou des personnes âgées. Donc moi, je trouve ça bien.
Non, c'est sûr, c'est bien, mais la question... Attends, est-ce que tu peux me remettre la musique dramatique, là?
C'est la musique de Kim.
Parce que j'ai une question à te poser quand même.
Ah d'accord, t'as une question à me poser. Et j'ai aussi la musique de l'appel à un ami, si je peux.
Ok, non, juste la musique dramatique.
Alors attends, elle est là.
Attention. Okay. Mais Mathieu, N'est-il pas trop tard?
Ah mince, c'est ça la question, trois mots.
Bah oui, non mais bon, je pouvais pas, tu vois, c'était
n'est-il pas trop tard.
C'est bien que les gens prennent conscience, mais n'est-il pas trop tard? Parce que, tu vois, les fichiers sont déjà... Bon, ok. D'accord, ok, j'oublie. Et on va donc... Mon Dieu.
C'est quand tu poses la mauvaise question.
Pardon, j'ai pas... je pose plus de questions, promis.
Non, n'est-il pas trop tard? Non, mis à part... Non. Non, okay. Tu non. Détruis ton profil Facebook.
Ta réponse est non. Ah oui, tiens, d'ailleurs, autre rumeur, Facebook serait peut-être en train de travailler à un système qui te permet de détruire ton profil Facebook.
Ah, ce serait c'est pas bien d'y avoir pensé, ça, parce que tu peux t'inscrire, ouais. Mais tu peux pas te désinscrire. Ouais.
C'est comme Hotel California, tu sais. C'est ouais. You can check in, but you can never leave. Bon. Et sur ces bons mots, on va passer à notre séquence des rumeurs à la con avec ce petit jingle.
Ah. La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Merci Cédric qui nous a fait ces jingles. Les rumeurs à la con. Première rumeur, bon, news rapide et rumeurs. Hein. En fait, HP qui faisait Hewlett-Packard qui faisait leurs tablettes sous Windows qui finalement la font plus. Finalement, bah oui, ils la font quand même. Ok.
Ouais, tu m'étonnes.
Et en fait, j'imagine qu'ils ont reçu un coup de fil de Steve Ballmer de Microsoft.
Ils ont reçu une chaise, ouais.
Il leur dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires?
Voilà. Et je sens que ça a dû se passer comme ça, où il y a dû y avoir possible. De la pression de réduction sur les licences en volume ou un truc comme ça, parce que
ça faisait pas propre, quoi.
C'est vraiment pas propre. Hein. Quand tu dis que t'as peur pour Microsoft, mais c'est vrai que je partage totalement cet avis parce que. Ouais, vu comment ça part, enfin c'est pour moi il y a et qu'un plus... problème dans cette boîte, c'est le PDG.
Non, il y a pas que ça. Mais enfin, en plus de ça, donc HP va faire des tablettes et des téléphones sous système Palm, bien sûr. Le système de Palm.
WebOS.
Merci, WebOS. Mais ils vont faire quand même une tablette sous Windows. C'est peut-être, c'est juste pour dire, à la limite, on a l'impression. Mais Microsoft veut aussi s'attaquer aux tablettes. Steve Ballmer a fait une interview dans laquelle il a dit on prépare les tablettes et on va taper un grand coup, vous inquiétez pas. Sauf qu'il a annoncé. Bien sûr qu'on a un système d'exploitation, il s'appelle Windows. Et là, on se dit, est-ce que Steve Ballmer a bien pris conscience de ce qui se passe dans le marché des tablettes, quoi? Ils veulent pousser absolument Windows pour les tablettes. Est-ce qu'ils vont... Alors, peut-être
ça
que ça sera un Windows adapté, quoi.
Mais c'est comme... ça fait depuis 2000 que... Depuis 2001 ou 2002 qu'il y a un Windows spécial tablette. C'est pas un OS fait pour ça, quoi. Tu peux lui retirer ce que tu veux, tu peux... c'est pas fait pour ça, quoi.
C'est ce que dit tout le monde aujourd'hui. Bon, attendons de voir. Peut-être qu'ils feront les choses un petit peu mieux.
Si c'était le cas, je sais pas, Apple aurait pris macOS et aurait fait une base de système pour macOS et l'aurait foutu dans sa tablette. Les autres aussi, hein. Les autres l'auraient fait avec Linux. Si Intel se serait pas emmerdé à faire.
On sait pas. Peut-être qu'ils vont nous sortir un truc qui soit plus cohérent. Bon, j'avoue que je suis quand même un petit peu inquiet, mais ne vendons pas la peau de l'ours.
Par contre, il y a un truc qu'on peut voir. Je vais poster un lien. Ça s'appelle... Pardon, j'ai échappé mon micro. Voilà, j'ai posté un lien. C'est une vidéo. Enfin, c'est un lien vers un article avec une vidéo d'une interface qui s'appelle Macallan. C'est une surcouche à Windows 7 ou Windows CE 7, qui est la version portable. Donc on a une jolie vidéo d'une interface un peu sexy qui tourne sous Windows pour les tablettes, mais par contre tu le vois dans la vidéo, putain mais ça rame. Ça rame.
Bon, écoute, encore une fois, ne vendons pas la peau de l'ours, on verra bien, on est un petit peu inquiet, mais on verra.
C'est toujours dommage de voir les réunions comme ça où t'as un mec, ça... T'as l'impression que sa seule motivation, c'est la vente et c'est le volume. Je veux dire, il va pas te dire, ouais, on va faire des tablettes, on va créer de nouveaux usages, on va révolutionner un truc. Il te dit, notre concurrent, il en a vendu plus que ce qu'on aurait pu espérer. Et alors, nous aussi, on va s'y mettre. On n'a rien pour le moment, mais on va vous sortir un truc et puis on a déjà les bases. putain, ils sortent ça à chaque fois. Ils ont sorti ça avec l'iPhone quand il est sorti il y a 4 ans. Il est sorti. Enfin,
je retrouve le Mathieu Blanco de MacJT. Bien, bien.
Non, mais ça me fait chier que ça fait quelques mois que l'iPad est sorti. Il n'y a rien en face. L'iPhone, c'était pareil. Durant un an, il n'y avait rien en face.
Je suis d'accord, mais pour te redonner le sourire, tu sais ce que je vais faire ? Je vais te donner un exemple de ce que Microsoft fait super bien, parce que oui, ça existe, le système Street Slide, qui est un concurrent à Street View, qui est hyper enthousiasmant. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait, c'est très difficile à expliquer. Cherchez Street Slide dans Google, vous allez voir une vidéo que Microsoft a présentée récemment, qui est leur version de Street View, donc d'exploration virtuelle d'environnement réel par des photos qu'ils ont prises dans la rue. Et les innovations qu'ils ont trouvées pour ce système sont vraiment, vraiment bonnes. Et moi, je vous encourage à regarder ça parce que là, pour le coup, c'est de la vraie innovation vraiment efficace. Et ça vient de chez Microsoft, donc il faut le signaler. En gros, je résume, mais quand vous êtes sous Street View, c'est très difficile de vous déplacer exactement où vous voulez. Avec Street Slide, vous avez en fait un moyen de... Comment expliquer ? C'est-à-dire que vous regardez une rue dans Street View. Quand vous vous mettez à 90 degrés pour voir les immeubles, vous voyez qu'un tout petit bout d'immeuble. Et ben, avec Street Slide, vous pouvez reculer pour voir quasiment... tous les immeubles de ce côté de la rue.
Ça fait un panorama de la rue.
Voilà, ça fait un panorama des immeubles de la rue. Et non seulement vous pouvez voir donc tous les immeubles de la rue pour voir les différents numéros, mais en plus ils ont ajouté, comme vous avez en fait une image en très très longue et très fine sur votre écran, ils ont rajouté en haut et en bas des informations supplémentaires comme les logos des magasins qui sont dans cette rue ou les numéros. Donc c'est hyper facile à naviguer et hyper efficace. Street Slide de Microsoft, encourage à aller regarder ça.
Tu pourras mettre la vidéo de l'article qui est dans Mashable.
Exactement.
Très parlant.
Exactement. Autre information qui me tient à cœur également, c'est une petite info un petit peu personnelle en fait. Le service de suivi de la poste sur Twitter qui s'appelle Suivi avec la poste, que je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais reprendre le
c'est pas Suivi avec nom. Lisa.
Suivi avec Lisa, pardon, effectivement, sur Twitter. En gros, bon, je vais vous résumer la chose. C'est un système qui vous permet de suivre vos colis envoyés par la poste par Twitter. C'est super sympa, super simple, hyper malin.
Tu reçois toujours les notifications 24 heures après que ton colis soit arrivé.
Oh, mauvaise langue! Non, c'est pas vrai. Quand tu vas regarder le système sur le site web, t'as les informations en temps réel. Et là, en fait, je vous en parle parce que c'est Rodolphe qui m'a parlé de la chose et qui est en fait l'initiateur du projet, qui m'a envoyé un email en me le signalant et en me disant que s'il avait initié ce projet, c'était parce qu'on parlait dans le rendez-vous tech depuis des mois et des mois de Twitter et au départ, il s'est mis là-dessus. Et il a suivi un petit peu l'évolution et c'est comme ça qu'il a découvert un petit peu Twitter et donc ça a cogité, il s'est dit comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans mon entreprise, dans la poste et donc il a imaginé ce système, il l'a proposé, il a fait son plan et les gens l'ont accepté.
Rendez-vous tech influence la poste.
Ah mais c'est énorme quand même, non?
Moi, je me sens de la rapidité de livraison et de l'état des colis.
Écoute, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est une confirmation. Pardon ?
Tu as testé ?
Non, j'ai pas envoyé de colis depuis. Mais la prochaine fois que je le ferai, évidemment.
Les rares colis que je reçois ou que machin, le suivi de la poste, il est à H24.
Écoute, ça, c'est un autre problème. C'est pas moi qui m'en occupe.
Par rapport à la technologie, j'ai bossé à un moment à la poste où le suivi des colis, Colissimo et tout ça. On devait faire ça dans une interface de Internet Explorer 5 qui émulait le Minitel à travers un OCX. parce qu'ils ne pouvaient plus acheter de Minitel, mais comme la technologie ne voulait pas la changer, ils ont développé un émulateur du Minitel uniquement disponible sur Internet Explorer. Donc je ne dirais que ça.
Tu sais quoi ? Moi, je dirais quelque chose en plus. Je dis que ça me confirme ma croyance en laquelle je crois dur comme fer,
qui est que
quand on veut changer les choses, c'est petit à petit qu'on peut y arriver et on peut avoir une influence sur son entourage. Évidemment, voilà. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. Mais là, ce mec qui bosse à la poste, il écoutait l'émission, il s'est rendu compte. Enfin, tu vois, il a essayé des services.
Ça, c'est vraiment génial.
Et on a, je dis pas moi, mais je dis nous, en tant que communauté technophile, que ce soit nous les animateurs ou même vous les auditeurs, c'est petit à petit qu'on change le monde et il y a de quoi être fier et je m'y tiendrai dur comme fer. Voilà.
Bravo.
Tac. Merci.
Patrick Président. Non, vraiment.
Donc, si vous voulez changer les choses, faites-le petit à petit à votre niveau. Autre chose qui est en train de changer, c'est le service du parti pirate suédois qui est en fait, ils ont ouvert un fournisseur d'accès, c'est-à-dire que comme vous le savez, le parti pirate a maintenant une présence dans le gouvernement suédois et ils ont ouvert un fournisseur d'accès internet dont le leitmotiv est on ne va pas garder d'archives de nos données, donc de nos abonnés. Donc vous abonnez au Parti Pirate et enfin au fournisseur d'accès du Parti Pirate et nous en message politique presque, on ne garde aucune archive.
Ce qui est comment dire le minimum légal.
Voilà. Donc, si les autorités anti-piratage vont leur demander des informations sur qui est allé télécharger Inception depuis chez eux,
personne. Toi, tu vas avoir des problèmes.
Oh, tu sais, moi, j'ai une carte UGC illimitée. Donc, j'ai une carte UGC illimitée. J'ai un abonnement Spotify Premium. Je vois pas ce qu'il reste d'autre là. Tu vois, je suis tranquillou. Mais bon, c'est marrant de voir que le parti pirate met effectivement, comme on dit en anglais, they put their words where their mouth is. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils prêchent. Et qu'ils font ça. Moi, je me demande.
Une autre expression.
Et je me demande.
Ils les mettent sur la table, mais. Ouais.
Mais ça va être marrant de voir comment ça évolue parce qu'évidemment, ils vont à contre-courant de toute la législation, en tout cas les efforts de législation.
Je trouve ça vraiment bien
moment.
Parce que c'est un truc que je vois absolument pas arriver en France que des.
Le parti pirate, non, c'est sûr que tout le monde s'en fout hein, de l'informatique en France. Sinon, on n'aurait pas
adopté. Non, mais même, il y a un parti pirate en France, mais c'est.
Oui, mais enfin. C'est ce que je veux dire, tout le monde s'en fout. Je dis pas ça dans le sens on s'en fout du parti pirate, mais ce que je veux dire, c'est que ces problèmes de nouveaux droits de propriété intellectuelle, nous, la communauté geek, on s'en soucie, mais le reste du monde utilise à peine Internet, et quand ils le font, c'est pour un émulateur de Minitel pour la poste. Donc.
Forcément. Suivi de la poste.
Voilà. Enfin.
Non, mais.
Bon, voilà, c'était notre dernière petite info.
Et tu vois, dans la chatroom, tablette Wacom commandée.
Eh bien, bien joué. Qui a commandé la tablette Wacom?
T-Steak. Eh bien, tu as bien fait. Tu ne seras pas
bravo.
Déçu.
T-Steak, tu as certainement... Bah, si tu n'es pas content, c'est à Mathieu qu'il faut envoyer un email. Hein. Moi, je n'ai rien dit.
Voilà, on parle et puis on change les choses. Enfin, je trouve ça génial. C'est vraiment super.
Alors, dernière chose dont on va vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment la statistique de la statosphère de habituelle de notre émission. Je suis fatigué aujourd'hui, vous n'avez même pas idée quoi. Donc, la statosphère de Guillaume, il nous a envoyé notre segment habituel et on va voir qu'on va reparler un peu encore de réseaux sociaux.
Bonjour à tous. Un récent article du blog américain Mashable reprend des chiffres de l'Institut Nielsen portant sur le temps passé sur la toile par les internautes américains. Ces statistiques permettent notamment de comparer leurs habitudes de 2010 avec celles observées un an plus tôt. Ainsi, on observe qu'ils passent 43% plus de temps sur les réseaux sociaux. Ils passent également de plus en plus de temps sur les jeux en ligne ou à visionner des films et vidéos en streaming. Cette utilisation du temps sur Internet se fait essentiellement au détriment de la consultation des emails, 28% de moins, et des messageries instantanées type Windows Live, 15% de moins, de plus en plus délaissées. Concrètement, sur la base d'une heure passée sur le web, les internautes américains passeraient en moyenne 14 minutes sur les réseaux sociaux, 6 minutes à jouer en ligne, ou 5 minutes sur leurs emails. Les réseaux sociaux, notamment les deux principaux, ont donc toujours le vent en poupe. Alors que Facebook a annoncé le 21 juillet dernier le franchissement de la barre des 500 millions de membres, Twitter enregistrait son 20 milliardième tweet le 31 juillet. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume. Guillaume nous fait baisser sa musique de plus en plus. Au début, on l'entendait bien. Maintenant, on n'entend plus que sa belle voix.
Ouais, le hard rock, là. Ouais.
C'était pas du hard rock, c'était « Follow me ». Bon. Ouais. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est un truc que je constate et je sais pas vraiment quoi en penser. C'est que les gens n'utilisent même plus l'email. Ils passent leur temps sur le web et en particulier sur Facebook. Tu te rends compte que Facebook est de très loin, enfin Facebook et Twitter, enfin surtout Facebook est de très loin le truc qui monopolise le plus l'attention des internautes. C'est,
enfin, ça
c'est
te pas place moi. Le niveau.
Non mais c'est quand même, enfin je sais pas. C'est vrai que en même temps entre Facebook et Twitter, c'est vrai que même moi ça m'occupe beaucoup, mais je sais pas, c'est la génération, tu sais, Facebook existe maintenant depuis 6 ans, la génération qui grandit aujourd'hui ne s'en sert que, enfin ne se sert quasiment que de ça, je veux dire, les gens plus jeunes avec qui je converse ne se servent plus du tout d'email, quoi, c'est Facebook ou rien.
Tous les, ça, si tu regardes un peu dans le passé, j'ai envie de dire, ça change à peu près tous les, quoi, tous les 2 ans et demi, tous les 4 ans. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à utiliser Internet, t'allais sur quoi? T'allais sur MSN.com, sur Caramel, et puis ouais, voilà. Et puis tout d'un coup, c'est passé à AltaVista, Google, et t'allais que là-dessus. Et maintenant, c'est Twitter, c'est Facebook, et puis demain, ce sera...
Ouais, mais tu sais, moi je crois que les choses sont en train de s'établir un petit peu quand même. Je me demande si, enfin, on disait la même chose de MySpace qui était le caniveau de l'internet, mais on disait la même chose de MySpace à l'époque, quoi. Moi, MySpace, ça m'a toujours débecté, mais t'as même pas idée, c'est les Skyblogs d'il y a 3 ans, enfin, c'est l'horreur.
Ouais,
Mais tu vois, on disait la même chose, on disait tous vos potes sont sur MySpace, donc tiens, il y a quelqu'un, Mac Antonin dans la chatroom dit Caramel, de quoi tu parles? Oui, c'était un service de mail bien populaire en France il y a quelques temps, Caramel. Mais le c'est vrai que aujourd'hui Facebook est hyper important. Il y a quelques temps, on disait ouais, mais tout le monde est sur MySpace, personne ne va en partir parce que tous vos potes sont là. Et c'est vrai qu'en 2 ans, on a oublié MySpace et tout le monde est sur Facebook. Peut-être que je me trompe et que dans 2 ans, tout le monde aura quitté Facebook. Mais ils sont en train d'envoyer leurs tentacules tellement loin. Mark Zuckerberg est en train de conquérir le net, sans déconner. Facebook, moi, je les vois pas partir, quoi. Enfin.
On disait la même chose. On disait la même chose de Caramel, de Voilà.fr, ouais, de Multimania pour ceux qui s'en rappellent, de chez.com.
Non, mais là c'est un niveau tellement plus élevé. Ça risque de disparaître, mais ça sera pas dans 2 ans, c'est certain.
C'est juste que c'est dans l'air du temps, c'est tout.
Ouais, peut-être. Bon, écoute, rendez-vous dans 2 ans et on verra ce qui s'est passé. Et on arrive à la fin de l'émission.
Est-ce qu'on a le temps pour un petit lien sympa?
Écoute,
que j'ai jamais pu placer.
Bien sûr, vas-y. Comme toujours, je te donne la priorité.
C'est un petit rapport direct avec l'informatique, mais c'est un site qui s'appelle, voilà, je vais le poster, s'appelle en un seul mot j'aimeattendre.com.
Je me demande si tu n'en avais pas déjà parlé à un moment.
C'est possible, je ne sais pas.
Bon, écoute, vas-y, c'est pas grave, ça fera un rattrapage.
Vous arrivez sur un site qui vous référence toutes les hotlines des mairies, de vos boutiques high-tech, de votre opérateur, enfin tout ça, et en fait on peut voir à quelle heure il faut appeler pour passer le plus rapidement l'attente de la hotline, et on peut même je crois poster on a appelé à telle heure, ça a duré tant de temps, et puis ça fait des stats, et puis voilà.
Oui, donc c'est-à-dire que si on veut appeler un service quelconque, une hotline,
que ce soit la mairie comme ta boutique auquel t'as acheté quelque chose,
il donne les heures creuses, quoi.
Voilà.
Super pratique. J'aimeattendre.com. Merci, Mathieu.
Voilà.
C'était notre site fantastique. Merci, Mathieu. Et puis, puisque tu es tellement bien parti, dis-nous donc où les gens peuvent te retrouver sur l'internet du cybernaute. Excuse-moi, ça m'a pris. On était dans les années 90, là.
Alors, vous pouvez me retrouver sur mon blog, mathieublanco.fr. Un seul mot, 2 T.
C'est tout. Tu dis juste mathieublanco.fr. Il n'y a pas ni Twitter ni Facebook. Tout est accessible de là-bas.
Tout est sur le site, le Facebook, le Twitter, le Formspring, les articles sur le community management dernièrement.
Oui, j'ai vu ça. Tu te lâches.
Ah là, je me lâche et puis en plus je l'utilise tous les jours.
Merveilleux. Merci Mathieu. Moi, pour me retrouver, c'est sur Twitter ou sur Facebook, twitter.com/notepatrick et sur Facebook, facebook.com/notepatrick. Il y a aussi mon blog que j'utilise, je mets à jour moins souvent que Mathieu, patrickbeja.com. Et pour l'émission en elle-même, c'est... Pardon ?
Pas assez souvent, j'ai envie de dire.
Oui, c'est pas faux. Je fais des podcasts plutôt, contrairement à certains qui prennent du retard. Je ne dirais pas qui.
Ouais, qui déménage et tout ça.
Et pour l'émission, bien sûr, vous pouvez aller sur lrdv.fr qui vous mènera vers le blog
vers le
de
bonheur.
L'émission, vers le bonheur, j'ai envie de dire, et ou alors sur nowatch.fm où vous retrouverez tout un tas d'autres émissions qui vous apporteront encore plus de bonheur si vous êtes en manque de bonheur, des émissions comme Techno IT qui est en vacances en ce moment, donc bon, Will & Co, Season 1, Azeroth.fr, etc., etc. Et s'il vous en faut encore plus, vous allez sur nowatch.tv et pas nowatch.fm.
Et là, vous avez l'image avec le son.
Et vous avez l'image avec le son de toutes sortes de nowatchers divisés en scudeurs, en geekinkers, en cinéfuzzers, etc., etc. C'est le bonheur.
Total.
Atadog sur la chatroom dit Mathieu, bonheur.
Bonheur.
J'avoue. Eh ben merci à tous. Donc je suis désolé de ne pas avoir eu nos animateurs habituels, à savoir Jeff et Yann. J'espère qu'ils vont tous les deux très bien.
Prendre des nouvelles de Yann.
Bah oui,
si tout va bien.
On vous dira qu'il va bien dans deux semaines. Pour la prochaine émission, ça sera de quelle date s'agira-t-il ? Ça sera le 16 août. On vous retrouvera à ce moment-là. Et d'ici là, on vous fait des grosses bises. On fait des grosses bises à Jeff et Yann aussi.
Et surtout, restez à l'écoute d'une future émission de nowatch.fm, peut-être présentée par Patrick, ou peut-être par moi, ou peut-être les deux.
Tu fais des teasers.
Je dis ça, comprendra qui voudra comprendre.
On vous tiendra au courant. Énorme bise à tous. Bonnes vacances si vous y êtes. Bon retour si vous en revenez. Et à dans deux semaines.
Attention sur la route. À bientôt.
Ciao.